Ben, d'abord, merci beaucoup à Anne et pour cette invitation, et puis à toutes celles et tous ceux qui sont là pour nous écouter et discuter de ces questions. Alors, la commande d'Anne était particulière. Au départ, enfin, elle m'invitait à parler des enquêtes et des travaux récents qu'on menait autour des sociabilités des étudiants et aussi de leurs conditions d'études. Et il y avait donc, effectivement, voilà, effectivement, ce sont des enquêtes sur lesquelles on est en train de travailler. Et il y avait deux questions que je n'avais pas vraiment rapprochées jusque-là, même si, enfin, voilà, j'avais l'impression de travailler d'un côté sur l'autre, de l'autre, d'un côté sur l'une, de l'autre côté sur cette question des apprentissages, sans avoir vraiment fait le lien, en fait. C'est vrai que les questions des sociabilités des jeunes, bon, c'est des questions sur lesquelles je travaille depuis longtemps. Puis la question des apprentissages en situation de confinement, c'est une question à laquelle, ben, comme Tanguy l'a dit, on a tous été confrontés au printemps en tant qu'enseignant et auquel on est à nouveau confrontés cet automne, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Donc c'est une question très générale qui se pose aux apprentissages. Donc j'avais travaillé ces deux questions séparément, parce que j'étais sur un sujet et puis sur l'autre. Et puis la commande d'Anne, au départ je me suis dit, bon, bah, je vais parler des deux, mais je ne sais pas bien comment je vais faire la transition. Et puis en travaillant donc pour cette présentation d'aujourd'hui, en fait, j'ai vu petit à petit apparaître le lien, et donc c'est ça que je voudrais vous montrer. Alors je vais le faire en trois temps. Premier temps, on va quand même faire un petit point sur la sociabilité dans le monde d'avant. Alors, avant quoi? Alors, avant la révolution numérique des années 2000, avant le confinement du printemps. On va passer ça en revue rapidement parce qu'il me semble que ce sont des éléments très importants pour comprendre à quel point le numérique a changé des choses ou n'a pas changé des choses avant le confinement et pendant le confinement. Ensuite, deuxièmement, on verra les sociabilités étudiantes à l'épreuve du confinement. On verra ce que le confinement leur a fait. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Est-ce que le numérique a pu constituer une ressource ou un recours? Et enfin, dans un troisième temps, on verra pendant ce confinement ce qui a été possible en termes de poursuite des apprentissages à distance et quel rapport ça a. Effectivement, puisqu'il y en a un, avec ce que les sociabilités des étudiants sont devenues pendant cette période. Donc voilà un petit peu le programme. Alors, grand 1, la sociabilité dans le monde d'avant. On a une hypothèse, enfin, ce n'est pas une hypothèse, c'est plutôt une idée reçue, selon laquelle il y aurait eu, au tournant des années 2000, on va dire, une sorte de révolution. Liée à l'explosion du numérique, une révolution des sociabilités, et que celle-ci aurait été complètement bouleversée par cette révolution numérique. Et pour voir ce que vaut cette idée reçue, je pense qu'il faut remonter un petit peu en arrière et revenir à ce qu'on sait des sociabilités des années 60, 70, 80, 90, vraiment, vraiment le monde d'avant, hein, vraiment le monde du millénaire précédent. Alors, en réalité, en sociologie, en matière de sociabilité, il y a quand même des choses qu'on sait depuis très longtemps, qui sont des sortes de grands invariants des sociabilités avant le numérique, d'une certaine façon, et qu'on peut tout à fait résumer avec ce schéma. Alors, vous voyez, qui est tiré d'un article de Michel Forcé qui commence à vraiment, vraiment dater, 1981, donc c'était il y a 40 ans, et qui s'appuyait lui-même sur des données qui sont aussi celles que Pierre Bourdieu utilise dans la distinction 1967, donc c'est très, très vieux. On parle voilà, d'une période il y a un demi-siècle pratiquement. Il y a un demi-siècle, on avait déjà montré que la sociabilité était traversée par des logiques de différenciation qui sont celles-ci. Les sociabilités les plus importantes en volume, c'est ce qu'on lit sur l'axe horizontal, ce sont celles des classes favorisées. Quant aux classes populaires, elles ont des sociabilités beaucoup moins importantes en volume, première chose. Donc voilà, autant du coup là déjà pour une idée reçue qui serait que en gros les classes favorisées ont le capital économique, les classes moyennes ont le capital culturel ou construisent leur position sur le capital culturel et que les classes populaires construiraient leur position sur la solidarité, la sociabilité, donc le capital social. En fait, on voit ici et on voit dans de nombreux travaux empiriques que ça marche pas du tout comme ça et que en matière de relations, le capital social va au capital économique et culturel. Première chose, et puis deuxième chose, voilà, alors, deuxième chose, il y a une différenciation entre des sociabilités plutôt tournées vers l'extérieur du domicile et des sociabilités plutôt tournées vers le foyer, qui différencient là aussi les classes sociales les unes par rapport aux autres. Et puis enfin, il y a une troisième logique qui est celle d'une diminution dans toutes les classes sociales de l'intensité de la sociabilité avec l'âge. Cette espèce de mouvement de chaque trajectoire de la droite vers la gauche qui fait que, en gros, les sociabilités diminuent en intensité et se tournent de plus en plus vers les membres du ménage plutôt que vers des personnes extérieures au ménage. Donc voilà, on a un premier schéma, ça ce sont des choses qui sont connues depuis un demi-siècle, et on va voir qu'en réalité, ces choses-là bougent très très peu. On en est à peu près, enfin, ce sont des sortes d'invariants de la sociabilité, de la différenciation, de la distinction en matière de sociabilité qui continuent de fonctionner aujourd'hui. Première chose. Deuxième chose, il se serait produit, en tout cas avant la période des années 2000, un mouvement qui n'est pas un mouvement d'augmentation de la sociabilité, qui, on a un certain nombre de travaux pour le dire, ici, en France ou ailleurs, par exemple aux États-Unis, il y a le livre de Robert Putnam qui s'appelle Bowling Alone, qui paraît en 2000, il me semble, mais qui repose sur les travaux des années 90, où Putnam montre que dans tous les domaines aux États-Unis, ce qu'il appelle le capital social, alors c'est un petit peu différent chez lui, mais bon, c'est quelque chose qui diminue, qui s'effrite, qui est en déclin sur 30, 40 ans. En France, on a aussi des données qui racontent un petit peu ça. Là, alors, par exemple, dans cet article qui date de 1998, Nathalie Blanpin et Jean-Luc Panquechol font une comparaison entre une enquête réalisée par l'INSEE en 83, qui s'appelle l'enquête Contact, et puis l'enquête Relations de la vie quotidienne de 1997. Et ce qu'on voit, c'est que dans toutes les catégories d'interlocuteurs, parents, amis, voisins, etc., les Français ont déclaré moins de contacts entre 1983 et 1997. Par exemple, la proportion de Français qui, en 1983, déclaraient avoir parlé avec un ami au cours de la semaine écoulée, elle était d'environ 80%. 15 ans plus tard, elle est seulement de 65%. On a une baisse de 15 points en à peu près 15 ans. Voilà. Donc il y a un questionnement à la fin des années 90, au début des années 2000, sur ce qu'on pourrait appeler un déclin de la sociabilité ou des transformations de la sociabilité qui prendraient en partie ce sens-là. Bon, on en est là, et puis il se passe un truc. Et ce truc, c'est l'explosion des outils. On a d'abord appelé ça les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, puis les TIC quand elles n'étaient plus si nouvelles que ça, puis les réseaux sociaux numériques, etc., etc. Le web. Bon, voilà, on est maintenant très très familier de tout ça, mais c'est pas si vieux que ça, hein, ça a une vingtaine d'années. Et on a, voilà, alors là, Dominique Cardon essayait de le cartographier en 2008. Cette cartographie vaut encore plus ou moins, voilà, pour montrer qu'on a à notre disposition, chacun, individuellement ou collectivement, enfin, une myriade d'outils différents, avec des propriétés différentes les uns des autres, pour communiquer. Entrer en relation, se présenter aux autres, etc., etc. Ils n'ont pas les mêmes propriétés, hein. Certains servent à projeter des images réelles et d'autres servent à construire des images. Certains de ces réseaux sont des supports d'activité et d'autres sont plutôt des supports d'expressivité. Voilà, on a tout un ensemble d'outils pour faire tout ça. Et en sociologie, en sciences sociales, on a tout de suite eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux pour essayer de rendre compte des effets de ces outils sur la sociabilité et sur la tendance qu'on avait pu observer dans les années précédentes. En gros, il y a eu assez rapidement l'idée que la sociabilité en ligne, on a d'abord dit virtuel, puis on s'est rendu compte que, en fait, le virtuel n'était pas si virtuel que ça, qu'il était tout à fait réel, mais on va dire la sociabilité en ligne, il y a eu un fantasme qui supposait qu'elle défaisait la sociabilité de face à face. Ce fantasme, il s'incarne dans des images. Alors, le paradoxe, c'est qu'elles circulent beaucoup sur Facebook, ces images, dans ces images de jeunes qui, au lieu de se parler les uns les autres, quand ils sont ensemble, sont rivés à leur téléphone portable. Voilà, donc la sociabilité numérique, les relations électroniques nuiraient aux relations de face à face. Alors, en réalité, ce cliché, on peut assez facilement le discuter. Premièrement, ces outils numériques de communication, c'est pas forcément quelque chose qui vient complètement bouleverser les usages relationnels et communicationnels. Autrement dit, ça n'arrive pas ex nihilo dans une sorte de désert communicationnel ou relationnel. En réalité, ça vient souvent outiller des pratiques, des usages qu'on avait déjà et des besoins qui ont suscité l'apparition et le développement et le succès aussi de ces outils. Enfin, on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Hein, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a l'air nouveau, il y a toujours quelqu'un, un sociologue, un historien, souvent, pour dire c'est pas si nouveau que ça au 19e, au 18e, etc., etc. On peut trouver des exemples de réseaux sociaux de ce type-là, de circulation de petits billets dans Paris, etc. Moi, je vous donne simplement un exemple. Hein. On a beaucoup parlé de la révolution dans l'exposition de soi qu'avait pu entraîner Facebook, par exemple. Moi, j'ai l'impression que l'idée du mur Facebook qui raconte qui on est et dans lequel, du coup, en fait, une partie de ce qu'on est est constituée de nos relations, hein, c'est ça aussi. C'est-à-dire que nos identités deviennent des identités relationnelles, mais en fait, elles l'étaient déjà, alors à une échelle évidemment moindre, mais ces murs Facebook, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de les photographier chez des collègues, chez des amis, chez des adolescents avec lesquels on faisait des entretiens. Alors vous voyez par exemple, là j'en mets deux exemples, hein, le mur de Sarah, c'est les portes du placard de sa chambre qui sont entièrement couvertes d'inscriptions laissées par ses copains et ses copines. Ça ressemble beaucoup à un mur Facebook fabriqué à la main. Alors le mur de Boris, c'est au-dessus de son bureau, il y a un système de pince à linge et de ficelle qui lui sert à montrer ce qu'il est. Il y a des papiers d'identité, il y a ce qu'il fait, ce qu'il aime, voilà, ce qui l'intéresse. Et ça ressemble pas mal aussi à des choses qu'il aurait du coup repostées, partagées. Voilà. Alors pour qui? Pour un cercle restreint, bien sûr, hein, les gens qui passent dans ces pièces, qui atteignent ces endroits. Mais on voit que les fonctionnements n'étaient pas si Voilà, le fonctionnement de Facebook n'est pas si étranger à ce type de pratique. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, j'allais dire surtout, deuxième chose, quand on fait des enquêtes sociologiques sur les relations entre sociabilité en ligne et sociabilité hors ligne, c'est-à-dire en fait en face à face, on ne va pas du tout trouver des oppositions entre les deux, ou des logiques de substituabilité, mais au contraire des logiques de complémentarité. Je vous donne un exemple, mais vraiment, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, et c'est quelque chose qu'on trouve aussi à chaque fois qu'on fait une enquête sur ce sujet, hein, à quelque échelle que ce soit. Cet exemple, c'est celle d'une enquête assez marquante réalisée par Barry Wellman, qui est un grand spécialiste mondial de ces questions de sociabilité numérique. L'enquête réalisée voilà, entre 2002 et 2007, on s'appuie sur les grandes enquêtes américaines, on est aux États-Unis, et on voit que, alors première chose, quand on regarde la courbe du bas, en 2002, d'abord, on n'observe pas de relation entre l'intensité de l'utilisation d'Internet et le nombre moyen, qui est en ordonnée, donc verticalement, et le nombre moyen d'amis hors ligne, c'est-à-dire dans ce qu'on appelait à l'époque la vraie vie, qu'on n'appelle plus comme ça maintenant. Il n'y a pas de relation, on est à peu près, voilà, il n'y a pas une pente très claire de la courbe, premièrement. Ce qu'on aperçoit, ce qu'on voit ensuite, deuxièmement, c'est que entre 2002 et 2007, c'est-à-dire un peu avant et un peu après l'apparition et l'explosion des réseaux sociaux numériques, et en particulier de Facebook, le nombre d'amis hors ligne dans la vraie vie n'a pas diminué, il a augmenté. Donc, l'apparition de Facebook ne fait pas diminuer les contacts de face à face. Alors, on ne peut pas dire qu'il les a fait augmenter, mais en tout cas, ils coïncident à une période au cours de laquelle, en réalité, ils augmentent, quelles que soient les catégories d'utilisateurs d'Internet. C'est vrai pour les utilisateurs modérés d'Internet, mais c'est vrai et c'est encore plus vrai pour les utilisateurs plus fréquents ou plus intenses d'Internet. Et ça fait que sur la courbe du haut, du coup, en 2007, cette fois-ci, on voit apparaître une pente. Donc, il y a désormais une corrélation entre l'intensité de l'utilisation d'Internet et le nombre d'amis en face à face, hors ligne. Mais cette corrélation, elle est positive. C'est-à-dire que les plus gros utilisateurs d'Internet sont ceux qui ont le plus d'amis hors ligne, par ailleurs également. Et ça, c'est des résultats qu'on va retrouver constamment. On les retrouve y compris dans la dernière enquête pratique culturelle des Français de 2008, où on voit que ceux qui utilisent le plus Internet sont aussi ceux qui ont le plus de contacts sociaux, sont aussi ceux qui ont le plus de sorties culturelles, etc., etc. Je m'engage pas sur le sens de la causalité, hein, parce que c'est avoir des amis qui fait utiliser Internet ou est-ce que c'est utiliser Internet qui fait avoir des amis, mais la corrélation positive entre les deux dimensions, elle est indéniable. Tout ça fait que les logiques de la sociabilité générale, et on va voir dans un instant les logiques de la sociabilité adolescente et de la sociabilité des jeunes, n'ont pas été radicalement bouleversé par l'explosion des réseaux sociaux numériques et l'explosion du web. Il y a des changements, évidemment, mais il y a des logiques profondes qui sont maintenues, voire renforcées. Et ces logiques profondes, ce sont à la fois les logiques de différenciation sociale qu'on a vues, ce sont aussi des logiques d'enjeux, de distinction qui se nouent autour de la sociabilité et des relations qui fonctionnent bien et toujours et peut-être de plus en plus comme un capital, c'est-à-dire comme un ensemble de ressources sociales. Je vous donne juste un exemple pour le montrer, parce que d'abord, parce que là, c'est un livre, un article et un livre qui sont extrêmement éclairants quand il s'agit des sociabilités adolescentes. Voilà, alors soit vous avez des adolescents à la maison et dans ce cas-là, vous savez tout ça, encore que vous n'avez pas tout le temps l'occasion de regarder à l'intérieur de leur téléphone, soit vous n'avez pas d'adolescents à la maison ou vous n'avez jamais vu ce qui se passait dans leur téléphone, dans ce cas-là, la lecture du livre de Claire Vallès, elle est extrêmement instructive, voire édifiante. Alors j'ai mis deux reproductions là de dialogue. Hein, vas-y, si t'as plus de potes, arrête de sucer les miens, ok, ferme ta bouche, ok, viens pas commenter mes publications pour rien, vas-y, t'as pas d'amis, alors parle pas aux miens, j'ai oublié, t'as pas de potes, t'es une perdue, sans potes, trop une perdue. Voilà. En termes choisis, c'est une façon de dire l'importance du capital social et des relations dans la construction des réputations, de l'image aussi de soi à l'adolescence. Voilà, on n'est pas sûr du tout que ce soit des logiques complètement nouvelles. On a au contraire, je crois, presque, alors, ouais, presque un siècle de travaux américains en sociologie ou en psychologie sur le bullying, pour savoir aussi que ces enjeux-là sont des... Voilà, on a aussi un article il me semble, de Merton de 1941 sur le gars à la mode, voilà, le capitaine de l'équipe de foot et la cheerleader. Pour montrer comment ces gens-là étaient déjà fondamentaux à l'époque et comment, bah, on voit, il le reste. Alors, il le reste dans des termes un peu nouveaux. Dans le livre de Claire Balèze, elle a besoin de traduire certains passages en français pour qu'on comprenne, mais c'est toujours probablement ça qui se joue un petit peu selon les mêmes logiques. La question est de savoir maintenant. Alors, on va travailler sur les étudiants plutôt que sur les adolescents, parce qu'on a fait une enquête qui a interrogé des gens qui avaient 18 ans et plus. On avance un tout petit peu en âge, mais la question est de savoir ce que ces logiques deviennent, alors non pas cette fois-ci à l'échelle du siècle, du demi-siècle, ou même des 2 décennies écoulées, mais des quelques mois écoulés, et en particulier ce qu'ils deviennent quand ben, on passe du ce monde d'avant, mais déjà fortement outillé par les moyens de communication numérique, au monde d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment on l'appelait, le monde de dans ce moment, de pendant, parce qu'on est encore dedans, et le monde d'après, je ne sais pas c'est quand c'est et s'il y en aura un. Mais donc, en tout cas, voilà la période qu'on connaît depuis le printemps. Savoir un petit peu ce qui se jouait autour de la crise sanitaire et du confinement, ce que ça faisait à nos vies sociales, à nos conditions de travail, de logement, à nos activités et à nos relations. On a essayé de réaliser pendant le confinement une enquête sur ces questions. Alors, cette enquête, qu'on a appelée VICO, comme la vie en confinement, le titre est une allusion directe à un ouvrage écrit il y a une dizaine d'années par 3 collègues qu'on retrouve dans l'équipe, donc Claire Bidard et Michel Grossetti en particulier, qui sont au LIST à Toulouse et qui avaient écrit un livre génial il y a 9 ans, paru en 2011, qui s'appelait La vie en réseau, et qui travaillait voilà, à partir d'une enquête formidable menée pendant plus de 15 ans auprès d'adolescents, puis devenus de jeunes adultes, sur les transformations de leur réseau personnel. Et on avait envie un peu de savoir ce qui se passait, ce qui arrivait à tout ça, à différents âges, pendant le confinement du printemps 2020. Donc on s'est réunis comme on pouvait, avec Zoom, comme ici aujourd'hui, et on a essayé de construire une enquête par questionnaire qu'on a diffusée en ligne. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cette enquête, alors sur l'actuel site de l'enquête qui va bientôt changer, mais bon, on fera les liens, il y a une présentation de l'enquête qui fait une quinzaine de pages, il y a une version plus courte, vous pouvez trouver le questionnaire si vous voulez savoir comment on a fait, et puis les données de l'enquête sont disponibles pour ceux qui veulent les utiliser et les étudier, il est possible d'en faire la demande. Cette enquête, on l'a réalisée on va dire, entre la mi-avril et la fin du confinement du printemps, donc le 10 mai, le 11 mai. Et sur cette période-là, le questionnaire a été rempli par un peu plus de 16 000 personnes. Donc on a un très très gros échantillon, enfin, ça nous a un petit peu surpris d'obtenir autant de réponses. On a un échantillon qui est un peu déformé, parce que c'est une enquête en ligne, réalisée dans des conditions particulières, parce que c'est une enquête sur les relations. Donc ça fait aussi que beaucoup plus de femmes que d'hommes vont répondre. Et puis globalement, parce que c'est une enquête en ligne aussi, on va avoir des plus jeunes qu'attendus, et puis aussi des plus diplômés. Mais dans l'ensemble, voilà, on a un très gros échantillon d'abord qui permet d'utiliser des techniques de redressement et qui permet aussi de cibler sur un certain nombre de populations, et donc en particulier sur la population étudiante qui est extrêmement bien représentée dans l'enquête. Alors, qu'est-ce qu'il arrive aux étudiants pendant le confinement du printemps 2020? Première chose, il va se passer un truc massif dont on n'a peut-être pas, on a peut-être un petit peu parlé, mais c'est pas de ça dont on a fait les gorges chaudes. Au début du confinement, on s'est beaucoup excité sur une sorte d'exode urbain des bobos parisiens qui seraient partis à toute vitesse, et on nous a refait le coup à l'automne vers leur résidence secondaire des bords de l'Atlantique, de la Bretagne ou de la Normandie. En réalité, quand on regarde qui est parti de son logement habituel, ben on voit que d'abord et massivement, ce sont pas des bourgeois, ce sont pas les classes favorisées, ce sont pas des retraités aisés, ce sont les jeunes. On a plus du tiers des 18-24 ans qui sont allés se confiner ailleurs que là où ils étaient, où ils résidaient habituellement, donc leur résidence universitaire pour beaucoup d'entre eux. Alors que après, très rapidement, on voit que c'est moins de 3% des individus, des Français qui ont fait ça. Donc, déjà, première chose, massivement, ce sont les jeunes et en particulier les étudiants qui sont partis de chez eux. Donc, il y a une première chose massive avec le confinement, c'est que c'est cette catégorie de population qui va être touchée et contrainte fondamentalement, de se déplacer, de partir de chez elle. Donc s'il y a un exode, c'est un exode des jeunes et des étudiants. À quoi on voit que ce sont des étudiants? Alors d'abord, on peut le mesurer, mais on peut aussi le cartographier. Et voilà, quand on regarde quels sont les départements qui ont perdu de la population pendant le confinement, ils sont en bleu. Et quels sont les départements qui ont gagné de la population, ils sont en rouge. Alors, la carte ressemble un petit peu à une sorte de patchwork dont on a du mal à saisir la logique au premier coup d'œil. Sauf qu'au bout d'un moment, on se rend compte, si on prend la liste des villes universitaires françaises, on les prend dans l'ordre. Celle qui a le plus d'étudiants, voilà, la plus grande ville universitaire française, on les prend dans cet ordre décroissant, et on remarque une par une que systématiquement, les départements où il y avait une ville universitaire ont perdu de la population. Et on le voit très bien ici, ben, ceux qui en perdent le plus, alors, il y a la Lozère qui fait un peu exception, mais sinon, voilà, Paris, Lyon, Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes, etc., etc. Tous ces départements-là sont en bleu. Donc, ce sont des départements qui ont été quittés par les étudiants. Donc voilà, première chose massive, ce qui arrive aux étudiants, c'est partir de chez eux, partir de ces villes, partir de ces départements, changer de département. Où est-ce qu'ils vont, tous ces étudiants? C'est pas très compliqué. Certains d'entre vous les ont peut-être vus, non pas partir, mais arriver. Débarquer. On voit très bien ici, hein, au départ, vous voyez, habituellement, les étudiants, ils sont 35% à vivre seuls. Pendant le confinement, ils ne sont plus que 7% à vivre seuls. À l'inverse, habituellement, les étudiants, ils sont seulement 30% à vivre chez leurs parents. Pendant le confinement, ils sont 61% à vivre chez leurs parents. Autrement dit, premièrement, massivement, les étudiants, donc en fait, ils sont partis de chez eux pour retourner, rentrer chez leurs parents. Accessoirement, on va aussi en trouver un certain nombre qui ont profité pour cohabiter au moins pendant la durée du confinement avec leurs petits copains ou leurs petites copines. Et puis, on va en trouver quelques-uns aussi, mais beaucoup moins, finalement, là, la différence est beaucoup moindre, qui vont se rassembler avec des amis. Mais le fait massif, c'est celui-ci. Les étudiants partent de chez eux. Et ils vont chez leurs parents. Un des grands intérêts de l'enquête Vico, c'est que donc on a 15 000 réponses, mais on avait aussi mis à la fin du questionnaire un champ commentaires libres, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez nous raconter ce que vous voulez pour finir, qui est très classique dans toutes les enquêtes, et en général, il n'est pas forcément beaucoup utilisé. Et puis là, massivement, en fait, on va avoir plus du tiers des répondants, donc presque 5 000 ou un peu plus de 5 000 personnes qui vont écrire des choses, alors parfois des choses très courtes, et parfois des choses beaucoup plus longues, et on se retrouve maintenant avec plus de 500 pages de commentaires divers et variés, où les gens nous racontent leur situation, ce qui leur arrive, disent leur colère ou au contraire leur satisfaction d'un certain nombre de choses. Donc voilà, on peut utiliser beaucoup aussi ça pour essayer de comprendre ce qui se joue derrière les réponses et les analyses statistiques qu'on peut en faire. Donc, vous voyez ici l'exemple d'un étudiant de Master 2 qui rentre chez ses parents, et ce n'est pas forcément tout simple. Ça se passe pas forcément tout le temps très bien. Pas les mêmes, il dit pas les mêmes styles de vie. Il faut cohabiter avec d'autres en permanence, et on en avait probablement assez souvent perdu l'habitude. Donc il va se jouer déjà quelque chose comme ça en termes de sociabilité, une coupure avec les sociabilités habituelles, amicales, et un regain probablement des sociabilités familiales, plus proches donc de celles des classes populaires par exemple, qui ne sont pas forcément celles habituelles des étudiants. Si on regarde globalement comment ont évolué les sociabilités pendant le confinement, alors on sait que dans l'ensemble, il y a des grandes logiques générales. Et elles vont toucher plus fortement les étudiants que les autres. Ces grandes logiques générales, c'est une réduction des relations et une augmentation de l'homophilie, on va y revenir, c'est-à-dire de l'entre-soi relationnel. Et on va trouver ces tendances un peu plus fortement chez les étudiants que chez les autres. Alors, la perte de relations, donc le fait qu'il y a des contacts qu'on perd pendant le confinement, c'est quelque chose qui touche beaucoup plus fortement les 18-30 ans, donc les plus jeunes, que les autres. Presque la moitié d'entre eux déclarent avoir perdu des relations pendant le confinement. C'est le cas de moins du tiers des plus de 60 ans. Et donc c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup aussi dans les commentaires. Alors je ne vais pas les lire systématiquement, mais vous voyez dans les diapos suivantes, j'ai essayé de mettre quelques-uns de ces commentaires pour qu'on puisse voir aussi comment, quelles paroles on entend à ces endroits-là. Des transformations des relations, à quoi ça correspond, comment on le ressent, comment on le vit aussi subjectivement, qui est quelque chose, voilà, cette idée, voilà, l'enquête Vico nous permet d'entendre aussi les paroles qu'on dit, les façons dont on pense et ce qu'on ressent à d'autres endroits que les nôtres, parce que pendant le confinement, on a eu beaucoup notre nez collé à nos propres affaires, et cette enquête permet de se promener ailleurs dans le monde social, ce qui est extrêmement important. Et donc on voit que les jeunes, en fait, pour eux, c'est très difficile, cette perte de contact avec leurs amis, leurs proches. C'est quelque chose qui fait partie de leurs identités. J'en ai dit un mot tout à l'heure, hein, et c'est peut-être aussi ça qui a été soit outillé, soit transformé par les outils numériques, c'est que il rentre de façon beaucoup plus évidente qu'auparavant cette dimension relationnelle de nos identités. Je suis en partie, je suis aussi mes relations. Je suis ce que sont mes relations, et la façon dont je m'affiche, consiste aussi à afficher mes relations. Et donc, du coup, si celles-ci sont perdues, ben, je suis amputé d'une partie de mon identité. C'est quelque chose qu'on voit assez clairement. Il y a des relations qui ne sont pas perdues, mais il y a des relations qui se dégradent aussi. Et là encore, vous voyez, ça touche beaucoup plus fortement les moins de 30 ans que les autres. Il y en a presque un quart qui déclare que pendant le confinement, il y a des relations avec certaines de. Voilà, il y a des contacts avec certaines de leurs relations qui se sont dégradées. C'est le cas de près du quart des moins de 30 ans. Alors, par exemple, ça touche seulement 6% des plus de 60 ans. Alors, il y a un peu de tout, hein. Il y a des amis avec lesquels les relations sont plus difficiles, des gens avec qui on cohabite dans certains cas. Vous voyez, un cas d'un jeune homme de 22 ans dont les colocataires ne veulent plus dans la colocation. Et puis, il y a aussi des séparations conjugales ou amoureuses qui ont lieu pendant le confinement. Alors, on ne sait pas si le confinement les provoque, mais on sait que ça peut se produire pendant ce moment particulier. Et donc, dans le cas de cette étudiante de 22 ans, on voit que la séparation a eu lieu, et on voit comment, d'une certaine façon, en préparant cette intervention, là, lire ce commentaire, tomber sur ce commentaire, c'est ce qui m'a commencé à mettre la puce à l'oreille, à me dire, mais en fait, les deux commandes d'Anne, là, parler de sociabilité d'un côté et parler d'apprentissage de l'autre, ok, je vais le faire, je vais le faire séparément dans deux parties différentes. Et là, c'est la première fois que je voyais un lien, puisqu'elle dit que ça s'est avéré bien plus difficile de se mettre dans les cours, car la séparation a été faite durant que je révisais des leçons. Et elle dit, à chaque fois que je m'y remets, je repense à cette scène. Et donc, nous, on croit que d'un côté, il y a les sociabilités amicales, et de l'autre côté, il y a le travail scolaire. Et en fait, là, on a une première indice que, en fait, tout ça est peut-être un petit peu mélangé. Et c'est seulement un indice, on va en avoir quelques autres. Puis on verra aussi ce qui va arriver ensuite à cette étudiante de 22 ans dans la suite de son aventure qu'elle nous raconte dans ce commentaire. Enfin, il y a des nouvelles relations. Alors là, en revanche, c'est un peu moins sensible à l'âge, mais les jeunes, les moins de 30 ans, n'ont pas seulement perdu des relations, ils n'ont pas seulement des relations qui sont regardées comme les autres, mais alors cette fois-ci pas plus que les autres, mais comme les autres, ils ont aussi fait de nouvelles rencontres pendant le confinement. On va voir qu'ils ne font pas les mêmes rencontres, mais ils en font autant que les autres, c'est-à-dire à peu près, on a à peu près un jeune sur cinq qui dit avoir fait de nouvelles rencontres pendant le confinement. Alors ici, on a un exemple d'une femme étudiante de 22 ans, mais alors qui est presque à la limite de la caricature, en tout cas de l'idéal type de l'étudiante qui fait des nouvelles rencontres, mais de façon très très volontaire. Voilà, elle a appris à connaître ses voisins qu'au début elle n'aimait pas beaucoup. Elle travaille pour le Secours populaire, elle fait des distributions de nourriture. Elle aide ses voisins. Enfin voilà, le confinement nous a donc permis de créer du lien social avec nos voisins et de venir en aide aux personnes dans le besoin. Je soupçonne une étudiante en sociologie, voilà, je n'ai pas d'éléments supplémentaires, mais voilà, on est dans un modèle de l'établissement de nouvelles relations et d'une sorte de renouvellement d'une certaine façon de la sociabilité pendant le confinement, dont il est difficile de dire à ce stade, si elle va être durable et pérenne, mais en tout cas qui se produit et qui est réel et observable pendant le confinement. Les jeunes font autant de nouvelles rencontres que les autres, mais ils font pas forcément les mêmes. D'accord? Ce cas de l'étudiante précédente qui prend contact, qui entre en contact avec ses voisins, qui les aide, etc. C'est un cas peut-être un petit peu particulier. On voit que dans l'ensemble, les nouvelles rencontres avec des voisins, ce sont plutôt les plus âgés qui les font, les plus de 60 ans. Les plus jeunes, ce n'est pas les voisins qui privilégient. Là où ils se distinguent très nettement, on le voit, c'est sur les rencontres en ligne. Ils vont faire de nouvelles rencontres, mais en ligne. Et donc, on peut vraiment faire l'hypothèse qu'ils ont perdu des contacts de face à face avec des amis et qu'ils vont reconstituer des contacts en ligne avec des personnes avec lesquels ils vont entretenir des relations amicales, mais qui ne sont ni des voisins, ni des collègues, en tout cas qui ne rentrent pas dans ces catégories-là. Qu'est-ce qui permet de faire cette hypothèse? Eh bien, ce qui permet de faire cette hypothèse, c'est le fait qu'on observe un renforcement de l'homophilie d'âge, des relations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'homophilie, c'est la tendance à apprécier ou à être ami avec les mêmes que soi, donc avec des personnes possédant des caractéristiques sociales ou sociodémographiques identiques ou proches. Et on va observer ça très fortement en termes d'âge et aussi en termes de diplôme, de niveau de diplôme. Donc on voit par exemple ici que avant, on avait une enquête de 2019 qu'on avait réalisée avant le confinement, qui montrait que 60% des 18-24 ans avaient des amis qui avaient également 18-24 ans. Et pendant le confinement, l'enquête Vico montre que presque 90% des 18-24 ans se sont rapprochés de gens qui avaient également 18-24 ans. Donc en fait, on a une augmentation de cette tendance à avoir des amis du même âge que soi ou à se rapprocher de gens du même âge que soi pendant le confinement. Et cette tendance, elle est vraie pour toutes les tranches d'âge, mais elle est très très forte chez les jeunes. Et on voit qu'il y a aussi une tendance significative à se rapprocher de personnes qui ont le même niveau de diplôme. Et on a comme ça quelques autres caractéristiques, une personne qui a la même situation conjugale, qui appartient à la même classe sociale ou à la même catégorie socioprofessionnelle, etc., etc. Il y a des mécanismes pour l'expliquer, hein, les relations avec les collègues, les voisins, notamment, et puis les amitiés électives ou les affinités électives font que cet entre-soi va augmenter pendant le confinement. Et c'est aussi une des caractéristiques de la transformation des sociabilités pendant le confinement qui est d'avoir augmenté l'entre-soi. plutôt que d'avoir renforcé une sorte de démocratie relationnelle ou d'ouverture relationnelle. Et ça, c'est un peu un cliché qui résiste pas tellement aux enquêtes empiriques. Donc voilà, on a ce tableau-là. En gros, les sociabilités n'ont pas connu de révolution spectaculaire pendant le confinement. Elles continuent d'obéir un peu aux mêmes logiques, qui sont ces logiques marquées par l'homophilie. Elles se sont pas effondrées, mais il y a eu des formes de renouvellement. Et c'est surtout, c'est très très fort, c'est plus fort chez les étudiants et chez les jeunes que dans les autres tranches d'âge et dans les autres catégories de la population où les choses, voilà, ont beaucoup moins bougé que chez les jeunes. Alors, quels effets ou quelles relations avec ce que deviennent ou ce qui arrive aux études et au travail scolaire et au travail universitaire pendant cette période. Donc c'est là où je m'étais dit, quand Anne m'avait demandé de faire cette présentation, je m'étais dit, mais en fait, je vois pas le lien, donc je vais raconter l'un puis l'autre, et puis en fait, on va voir le lien. Alors, première chose, quand je me suis mis à chercher des commentaires, et maintenant, beaucoup de commentaires que je trouvais sur ces questions dans l'enquête Vico, c'est pas moi qui faisais le lien, c'est eux. Donc il disait, voilà, j'arrive moins bien à travailler parce que le lieu dans lequel j'habite, c'est pour moi un lieu de détente et non pas un lieu de travail. Et puis je vois moins mes camarades de classe, j'arrive moins motivé. Donc il y a cette idée d'abord, là tout d'un coup on se met à mélanger l'espace de vie et l'espace de travail, c'est compliqué. Et l'espace de vie, c'est aussi un espace de relation avec les autres. Voilà. Ça peut être compliqué, mais ça peut marcher dans l'autre sens. Voilà, les deux derniers commentaires que j'ai reproduits sur cette diapo, ils disent un peu le contraire. Ils disent, je risquais vraiment de décrocher, par exemple parce que j'avais beaucoup plus de travail, hein, un étudiant qui travaille en grande surface. Et puis, en fait, j'ai pas décroché parce que je suis en colocation avec d'autres étudiants et ils m'ont maintenu dans le travail universitaire. Ou bien c'est mon groupe, voilà, mes amis, ils m'ont forcé à faire le travail en groupe que j'avais à faire. C'est-à-dire que moi j'aurais arrêté, mais j'étais dans un groupe de travail dans tel ou tel cours, et du coup j'ai continué. Donc là, on voit déjà s'établir une première forme de relation. Alors, dans l'enquête Vico, on n'avait pas forcément beaucoup de choses. En revanche, nous, en tant qu'enseignants, on avait d'abord, dès le début du confinement, on a eu besoin de savoir dans quel état étaient nos étudiants et si on allait arriver à faire cours ou à continuer à faire cours ou pas. Et donc, la première semaine du confinement, mais vraiment pour faire une sorte d'état des lieux déjà de nos étudiants, avec un collègue de Grenoble qui s'appelle Olivier Zerbib, parce qu'on faisait plusieurs cours ensemble, on a essayé d'interroger les étudiants de sociologie de notre fac pour savoir s'ils étaient en état de suivre des cours à distance et donc de faire avec nous cette continuité pédagogique qu'on nous demandait de mettre en place. Première chose que j'ai faite, c'est j'ai regardé dans leur ENT et dans l'ENT, il y a la date, la dernière fois à laquelle ils sont connectés. Donc j'ai regardé ça pour tous les étudiants de sociologie. Et là, petite surprise, d'abord, il y en a 25% qui ne sont pas connectés depuis le début du semestre, alors qu'on est le 15 mars. Et en gros, dans les 75% restants, vous voyez, ça se partage de la façon suivante. Ben, il y a à peu près la moitié de la promo, de l'ensemble des étudiants de sociologie grenoblois, qui sont connectés depuis moins d'une semaine, mais il y en a quand même un certain nombre qui ne sont pas connectés au cours de la semaine écoulée. Et ceux-là, quand on va commencer à essayer de leur écrire via l'ENT, parce que c'est notre seul moyen de les contacter, pour leur expliquer comment on va faire cours à partir de maintenant, ben, en fait, on va les perdre. Ça va être très difficile de les récupérer. Mais on en a à peu près la moitié qui sont là. Dans quel état ils sont? Alors, on leur distribue en ligne un petit questionnaire. Donc, on s'adresse aux 334 étudiants de sociologie de Grenoble. Voilà la réponse qu'on obtient. En fait, on a d'abord une très grande difficulté à réaliser cette enquête. Voilà, comment on fait une enquête sur le confinement quand les étudiants sont confinés? Comment on fait une enquête sur l'accès au numérique ou aux outils numériques s'ils n'y ont pas accès? C'est très compliqué. Donc, premier élément de réponse, on a un premier niveau d'étudiants qui regroupe presque les trois quarts d'entre eux, 72%. C'est en fait, ils ne répondent pas au sondage et on va avoir beaucoup de mal à les joindre. Et après, on a trois autres niveaux d'étudiants. On a ceux qui nous répondent, mais qui nous répondent qu'ils ne sont pas dans des conditions pour étudier, ils n'ont pas l'ordinateur, la connexion Internet, la pièce qu'il faut, ils ont des charges, ils s'occupent de parents, d'enfants, de frères et sœurs, etc. Donc ils ne sont pas dans les conditions pour étudier. Il y en a un tout petit nombre qui est dans des bonnes conditions, mais qui a des problèmes techniques. Par exemple, la connexion Internet, ça va être quelque chose. Voilà, les étudiants, ils n'ont pas forcément le Wi-Fi à la maison ou chez eux. Et donc, ils vont être sur leur 4G. Et nous, quand on va commencer à faire des vidéos, etc., ça va être compliqué. Et enfin, il y a 14% de nos étudiants qui sont dans des conditions favorables pour travailler. Donc, une toute petite proportion, finalement. On se rend compte un peu, je fais un billet sur mon blog à ce sujet, et on se rend compte qu'on est un peu les premiers avec Olivier à avoir fait ce type de sondage. Et il y a plein de collègues dans plein de facs qui vont embrayer, faire il y a une quinzaine d'enquêtes un petit peu similaires, un peu sur le même mode, en reprenant en partie notre questionnaire, donc je ne sais pas, sur peut-être des petits échantillons, mais on va avoir des résultats qui sont très convergents. Alors ces résultats, on les a présentés dans une contribution pour un livre, dans un livre qui vient de paraître, qui s'appelle « L'éducation au temps du coronavirus ». Donc, on a essayé de rassembler un peu ces résultats. Donc, je vous les synthétise dans cette diapo. Mais en gros, voilà l'état des lieux au printemps. On a jusqu'à, suivant les facs, on a jusqu'à un quart des étudiants qui n'ont pas d'ordinateur en état de marche, là où ils sont confinés. On est toujours à peu près dans ces proportions aujourd'hui, hein. On a environ un tiers des étudiants, l'ordinateur qu'ils ont, en fait, ils le partagent avec deux, trois ou plus encore autres personnes. Des colocataires, des frères et sœurs, l'ordinateur familial dans la maison des parents où ils sont allés se réfugier, etc. Après, on a un tiers, on a environ un tiers et la moitié des étudiants qui n'ont pas de connexion Internet rapide et stable à domicile. Ça veut dire, voilà, ils sont sur la 4G quand tout va bien, et des fois c'est pire, mais il n'y a pas le Wi-Fi souvent. Les trois quarts n'ont pas d'imprimante, alors qu'assez souvent, ils utilisent plutôt des supports imprimés ou des notes écrites pour travailler. On a la moitié des étudiants qui n'ont pas d'un endroit calme pour s'isoler et travailler, donc ils n'ont pas de pièces pour ça, ils partagent les pièces, d'autres gens vivent, et Tanguy l'a dit, travaillent ou télétravaillent en même temps qu'eux dans ces pièces, et enfin on a un quart des étudiants, suivant les enquêtes, on a jusqu'à un quart des étudiants qui déclarent avoir une personne à charge pendant le confinement, des grands-parents, des parents ou des frères et sœurs, alors les frères et sœurs il faut les faire l'école, les grands-parents ils sont parfois malades et il faut s'en occuper. Voilà, on a plein de situations, voilà, on a compris, voilà, un étudiant qui dit « j'ai un grand-père sourd et je suis le seul à savoir signer dans la famille, donc c'est moi qui m'en occupe ». Et toutes ces situations, voilà, on n'y pense pas forcément, mais en fait, mise bout à bout, c'est environ un quart des étudiants. Ça, c'est nos petites enquêtes d'enseignants de sociologie, chacun dans nos facs, mais elles sont assez convergentes, et surtout elles sont très convergentes avec une grosse enquête auprès de plusieurs milliers d'étudiants que réalise l'Observatoire de la vie étudiante sur la même période, et qui va montrer à peu près les mêmes ordres de grandeur. Et je vais m'arrêter là. On est dans une situation où les apprentissages sont rendus très difficiles, les apprentissages universitaires sont rendus très difficiles, à la fois pour des raisons matérielles, mais aussi pour des raisons qu'on a vues avant, qui tiennent aux transformations ou aux façons dont la sociabilité étudiante est affectée en période de confinement. On a vu qu'elle était fortement affectée, et on voit bien et on réalise là qu'en fait c'est un ingrédient, la sociabilité c'est un ingrédient très important de la réussite universitaire, et donc quand on coupe ces relations de sociabilité, on coupe ça aussi. Et donc voilà, peut-être en guise de toute petite conclusion, et je m'arrête, je crois que la façon dont, au début de l'automne, en septembre, octobre, on est un peu tombé sur les étudiants, les accusant de tous les maux, et notamment de propager le virus par leur rassemblement, leur fête et leur week-end d'intégration, ben on oublie un petit peu que ce sont aussi des ingrédients très importants de la socialisation universitaire et ensuite du travail universitaire, et ça en fait partie, c'est probablement une composante importante de la réussite universitaire, et il faudrait pas le manquer. Voilà. Et je vous remercie.
Merci beaucoup, Pierre, pour cette intervention très, très intéressante qui montre bien justement le lien entre la manière dont la sociabilité a été affectée pendant le confinement et les conditions d'études, les conditions d'apprentissage en enseignement à distance. Et il me semble que dans l'article que vous avez écrit, le livre que tu as cité, vous insistez sur le fait que l'enseignement à distance a contribué à accentuer les inégalités pédagogiques aussi. Et je trouvais aussi qu'il y avait quelque chose de paradoxal dans le fait que finalement, ces jeunes générations qu'on appelle parfois les digital natives, qui seraient naturellement acculturés au numérique, les natifs du numérique ont beaucoup en fait souffert de la séparation physique, quand même, de l'éloignement physique de leurs amis. Donc, on voit bien que ben, le numérique ne remplace pas des formes de sociabilité qui vont privilégier. Et puis qu'en même temps, dans la réception d'un enseignement à distance, on a l'impression qu'ils savent utiliser les outils numériques mieux que d'autres, qui vont être très familiers de ça, des outils de communication, mais qu'en réalité, il y a tout un métier d'étudiant qu'on n'apprend pas forcément, qui se fait aussi dans un cadre
Oui.
universitaire.
Et c'était une des leçons du confinement du printemps dans les rapports aux étudiants et à leurs usages de ces outils, c'est qu'on s'est rendu compte, en particulier à cette occasion, sans parler de Zoom ou des plateformes compliquées pour faire des visios, etc., comme on est en train de le faire, tout simplement leurs usages de l'adresse électronique universitaire et leurs usages de l'ENT. Alors, nous, à Grenoble, c'est Moodle, mais il y a d'autres outils ailleurs, où nous, comme tu dis, on suppose que ça fait partie du métier d'étudiant, et donc qu'ils doivent l'acquérir en première année de licence et que c'est la base, on doit regarder son email, et c'est comme ça qu'on a les infos, et sinon, eh ben, tant pis pour toi. Alors on peut tout à fait raisonner comme ça, et on a raisonné comme ça pendant très longtemps, jusqu'au confinement. Et puis quand, au premier jour ou au deuxième jour du confinement, on se rend compte qu'il y a, je ne sais pas, un quart de la promo qui n'est jamais allé sur Moodle depuis le début de l'année, alors que pour nous, c'est obligatoire et qu'on ne peut pas suivre les cours sans faire ça, parce que c'est là qu'on met les sujets et les exercices, qu'on essaye de comprendre comment ils font. Et ben, en fait, on se rend compte que eux, parallèlement, ils créent des groupes Facebook, et il y en a qui attendent que leurs camarades relayent les infos sur Facebook pour faire les exercices, etc. Donc, ils sont à plus grande distance de ces outils. Donc en fait, ils sont très habiles et très agiles avec certains outils et pas avec d'autres. Ils sont très réticents vis-à-vis de Moodle et de l'adresse électronique universitaire parce que ce sont des outils institutionnels, parce qu'ils s'y sentent dominés aussi par des formes d'organisation, par des propriétés structurelles, techniques de ces outils. Le mail plutôt que le chat ou WhatsApp, Moodle plutôt que Facebook, etc. Et voilà, et donc c'est des choses qui sont pas propres au confinement et dont on peut espérer qu'on va se soucier à partir de maintenant parce qu'on a vu les problèmes grâce au le confinement a servi aussi de loupe sur un certain nombre de ces questions. Oui, dans l'enquête
C'est-à-dire
de
au
Barry
mythe,
Wellman
je
qui se
pense.
repose beaucoup sur le.
Voilà.
Ça repose sur le General Social Survey américain, donc c'est des
Ne
données
pensez-vous,
déclaratives,
c'est, voilà.
très clairement. Ouais.
Ne pensez-vous pas que la définition de l'ami n'a pas pu évoluer dans
Si,
le
si,
temps?
elle a pu évoluer après. On dit souvent que Facebook a transformé le sens du mot ami, etc. C'est pas sûr du tout. Les adolescents, les jeunes et les moins jeunes savent toujours très bien faire la différence entre un ami au sens comptable dans Facebook, qui se résume souvent à un nombre d'amis, et les amis, et le terme tel qu'on l'emploie pour désigner une relation privilégiée. D'ailleurs, dans Facebook aussi, il y a des amis et de simples connaissances. Beaucoup d'adolescents savent très bien organiser tout ça en créant des groupes, des cercles, etc. Ils savent très bien empêcher leurs parents de voir ce qu'ils n'ont pas à voir. Donc, ils sont relativement agiles avec ces outils pour un grand nombre d'entre eux, plus que nous, souvent, plus que les adultes. Après, dans l'enquête de Barry Wellman, oui, c'est du déclaratif, le nombre d'amis. Dans d'autres enquêtes, quand on a le temps d'abord de l'entretien, comme c'est le cas de Claire Bidard et Michel Grossetti dans La vie en réseau, on va faire ça en ethnologue plutôt. Et donc, on va utiliser, typiquement, et même dans les enquêtes par questionnaire, on peut utiliser ce qu'on appelle des générateurs de noms. C'est-à-dire que ce n'est rien de compliqué, ce n'est pas une machine, c'est une question qui fait dire à l'enquêté une liste de noms, qui fait dire des noms. Quelles sont les personnes à qui tu te confierais si tu avais un problème d'ordre ceci ou cela. Et là, on voit apparaître des listes de noms et petit à petit, comme ça, on peut constituer quelque chose qui ressemble à une liste d'amis, à un réseau d'amis et à l'étudier. Tout à fait. D'ailleurs, mais pas seulement les jeunes. Hein. En fait, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de gens. Ça a été le cas de beaucoup de gens pendant le confinement. On a des formes d'expressivité beaucoup plus fortes qui trouvent parfois des débouchés dans les échanges avec les contacts et les relations, hein, qui peuvent aller beaucoup plus sur des questions de ce type-là qu'auparavant. On peut dire plus de choses. Et puis, quand on n'a pas forcément les relations pour exprimer, ben c'est là où nous, on va retrouver plein de commentaires. Beaucoup de commentaires dans l'enquête Vico. Et ce qui est frappant dans l'enquête Vico, c'est qu'on avait aussi une question sur les sentiments éprouvés pendant le confinement. Alors, on avait mis toute une liste de sentiments. On leur demandait s'il leur était arrivé de les éprouver depuis le début du confinement. Alors, on a d'abord des sentiments plus négatifs que positifs hein, pendant le confinement qui sont déclarés. Mais on voit que les gens déclarent beaucoup, beaucoup de sentiments. Ils cochent beaucoup de cases. Ils ont ressenti beaucoup, beaucoup de choses pendant le confinement. Ils les ont exprimées probablement avec des variations sociales qui sont très, très intéressantes. Et en particulier, on va voir que les jeunes cochent beaucoup plus de cases que les plus âgés. Et ils sont beaucoup plus nombreux à cocher des cases à la fois positives et négatives, donc avec des sentiments mêlés. Alors que chez les plus âgés, on va retrouver des choses plus partagées, soit positives, soit négatives. On a aussi les femmes qui cochent beaucoup plus de cases que les hommes et les diplômés qui cochent beaucoup plus de cases que les non-diplômés. Alors, il y a des tas de choses là-dedans qui s'entremêlent. Il y a à la fois ressentir plus de choses que les autres, oser déclarer plus de choses que les autres, avoir été éduqué à ressentir et à déclarer plus de choses que les autres. Il y a des socialisations aux émotions qui sont différenciées hein, suivant les milieux sociaux, suivant les sexes aussi. Et donc, on va retrouver tout ça. Alors, c'est difficile de dire si le confinement est une situation particulière de ce point de vue-là, mais on peut faire l'hypothèse que oui. Comment on fait pour contourner ces difficultés d'accès des étudiants On a déjà commencé à mettre en place des choses. Premièrement, on s'est dit qu'il fallait mettre le paquet sur ce qu'on appelle les méthodologies du travail universitaire en première année de licence. C'est-à-dire quand ils arrivent, l'urgence n'est pas de leur apprendre que Durkheim est le fondateur de la sociologie. L'urgence, c'est leur apprendre à se servir de ces outils et à vérifier, à passer une sorte de contrat avec eux pour vérifier qu'ils vont bien regarder leur adresse électronique, leur courrier électronique, aller sur Moodle, comment ça marche, comment ils font, est-ce qu'ils ont les outils pour le faire, est-ce qu'ils sont équipés, est-ce qu'ils sont dans les conditions pour le faire, et leur expliquer que l'enjeu, il y a un enjeu là-dessus, premièrement. Et deuxièmement, essayer de le faire moins verticalement qu'avant, c'est-à-dire du haut vers leur bas, en leur disant c'est comme si, et c'est pas comme ça, et si tu le fais pas comme ça, eh bien tu es puni, mais en essayant de comprendre quels sont leurs usages à eux, et de s'adapter. Et ça, ça veut dire en particulier que là, on est en train de mettre en place des techniques de reroutage systématique des adresses électroniques universitaires vers leurs adresses personnelles qui sont souvent sur Gmail. Donc là, c'est déjà une meilleure chance d'arriver à les atteindre. Et on les met en place et on les invite à le faire, on facilite l'accès à ce reroutage pour que là, les informations arrivent jusqu'à eux. Ensuite, en termes de plateforme, c'est une petite bataille en ce moment. Pour essayer de trouver pendant les situations de confinement des plateformes pour faire cours qui sont des outils efficaces pas en général et dans l'absolu, parce que dans l'absolu on trouve que Zoom c'est super, que ça marche bien, que c'est ça qu'il nous faut, mais en réalité il y a des trucs dans Zoom qui ne vont pas très bien, par exemple créer des salons de discussion où ils peuvent discuter sans que les profs les entendent. Dans Zoom, ce n'est pas super. Si vous pouvez mettre maintenant, il y a des salons, mais c'est super compliqué de trouver comment on revient ou comment nous, on ramène les étudiants de ces salons. Donc, typiquement, là, il va y avoir une bataille très, très intéressante entre Zoom d'un côté et Discord de l'autre, qui est une plateforme qui n'est pas du tout en odeur de sainteté dans les milieux universitaires, scolaires, etc., qui est plutôt un truc utilisé par des gamers et des hackers. Mais il se trouve que les étudiants sont vachement à l'aise avec ça. Quand nous, on essaye de faire cours avec Discord contre les consignes de l'établissement, hein, il faut bien le dire, assez souvent, nous, on est nuls, mais eux, ils sont très, très bons. Et c'est eux, ils nous expliquent. Et là, ils se retrouvent en situation de classe inversée qui est très, très intéressante. Et globalement, ces situations-là qui vont réduire les distances et les mettre en position de savoir des choses que nous ne savons pas sur des plateformes qu'ils maîtrisent mieux. Alors, il faut voir, attention, qui maîtrise, des garçons plus que des filles, etc. Mais des geeks plus que les autres. Mais c'est quand même intéressant. Donc, plutôt que de dire, voilà, ça, c'est le meilleur outil pour nous, de dire, oui, eux, ils ont un bon outil. Si nous, on apprenait à se servir de leurs outils, c'est une... Alors, ça ne peut pas être le tout, l'alpha et l'oméga de toute la pédagogie universitaire confinée, mais c'est intéressant d'aller aussi sur ces terrains-là et de prendre la température de tout ça. Discord oui, donc... est génial pour gérer des multitudes de salons, pour faire, quand nous, dans une promo de 80, on doit faire 30 binômes ou trinômes, et que chacun puisse discuter pendant un moment, qu'on puisse aller les voir sans embêter les autres, revenir, etc., etc., eh ben, c'est imbattable, Discord. Mais en revanche, notre direction des systèmes informatiques déteste, trouve que c'est dangereux, trouve que, etc. Il faut s'habituer à des choses. Dans Discord, ils ont des pseudos bizarres. Hein, ils s'appellent Kikoulol du 38 et non pas prénom, nom et numéro d'étudiant. Enfin, voilà, et puis, ils balancent des gifs, des images, des trucs. C'est un peu comme si on faisait cours au milieu, enfin voilà, on essayait de faire cours au milieu de la cour de récré. Et c'est pas inintéressant.
Alors peut-être pour conclure, je ne sais pas si tu es d'accord, mais on peut dire que le numérique, c'est un outil qui transforme en fait le cadre de la sociabilité, du travail, de l'apprentissage, qui change donc les conditions matérielles, les conditions spatiales, les conditions temporelles du travail, des liens sociaux, de l'apprentissage, etc. Mais qui ne bouleverse pas non plus complètement toutes nos pratiques. Hein,
mais ce qui est sûr, c'est que nos pratiques changent. Il y a une relation complexe avec les outils. Il y a des choses qui sont propulsées par les outils, mais il y a des choses où les outils sont à la ramasse et ils suivent autant qu'ils peuvent.
Et qui suivent en fait une évolution et ils l'accompagnent, ils la permettent en tout cas.